Bon, on va pouvoir démarrer puisque je pense que tout le monde est arrivé, tout le monde est bien installé. Portable éteint, bien sûr. Ah, super. Alain, votre portable est éteint aussi? Le portable éteint, c'est bien. J'ai bien éteint le mien aussi. En cuisine, c'est la thématique qu'on nous a demandé d'évoquer ici ce soir. La cuisine, c'est non seulement évidemment vitale, puisque la nourriture, c'est notre carburant de chaque jour. Mais elle est essentielle aussi pour notre bien-être quotidien, pour notre état de santé général, notre morale. Archestrate, qui était un aède, un poète grec, et c'est lui qui a écrit un poème qui s'appelait Gastronomia. C'est des fragments de poésie qui sont restés depuis l'époque de la Grèce. Et c'est ce qui a donné nom à la gastronomie, en fait, la nourriture d'excellence aujourd'hui. Eh bien, Archestrate, il disait que la nourriture, c'était le bien-être, santé, plaisir. Les trois choses, bien-être, santé, plaisir. Et c'est la nourriture d'excellence aujourd'hui. Alors, on va parler cuisine autour de deux livres. Alain Ducasse, le vôtre, une vie de goût et de passion, paru chez Jean-Claude Lattès. Vous retournez un peu sur votre vie, sur tout ce que vous avez fait, puis vous projetez aussi sur l'avenir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis alors, pardonnez-moi, mais pour cette situation un peu inconfortable, il se trouve que j'ai aussi écrit un livre qui me place en position de commentateur et d'auteur en même temps, L'arrière-cuisine chez Herscher. 25 portraits de grands chefs actuels qui ont un parcours de vie hors du commun. Et parmi ces 25 grands chefs, évidemment, j'ai parlé d'Alain Ducasse. Alain, j'ai d'ailleurs intitulé votre portrait La nature au cœur. La nature, pourquoi est-ce qu'elle est votre moteur principal?
La générosité de la nature, c'est ce que nous, cuisiniers, si nous n'avons pas les produits de la nature, nous ne pouvons pas exercer notre métier. Donc la nature, parce que d'abord,
Mettez bien juste le. Voilà,
je suis né tout près de la nature, je suis né dans une ferme en Chalosse. Pour ceux qui ne connaissent pas la Chalosse, c'est entre le Béarn, le Tursan, et le sud des Landes, c'est un peu cette Toscane vallonnée. Et je suis né en forgeant mon goût originel de produits de la nature. La nature jusque la forêt, proche de l'océan, la campagne. Voilà, donc c'est mon
C'est votre
terroir
ADN,
mental
quoi.
originel, c'est
C'est
mon
votre
ADN,
ADN.
c'est mon disque dur
Ouais.
gustatif.
Votre grand-mère faisait la cuisine pour la famille, à la maison, enfin à la ferme.
Oui,
Hein,
et
c'est elle qui vous a.
au printemps, on disait qu'est-ce qu'on mange à midi, on allait au jardin, et puis une heure après, on mangeait. Donc c'était une nourriture du peu.
Oui,
Mais c'est
mais du
certainement
bien
ça.
aussi, du peu, mais du bien.
Du peu et du bon. Il y avait certainement plusieurs raisons. C'est qu'on n'avait pas les moyens d'aller chez le boucher tous les jours. Donc
La viande, oui,
c'était
c'était une
assez
fois par
simple.
semaine, hein, la
Oui,
volaille du dimanche, en
la
gros.
volaille qu'on
Ouais.
élevait,
Ouais.
le boucher, c'était une fois tous les 15 jours plutôt.
Et votre grand-père, il était dans le bois,
Charpentier,
charpentier. Alors,
menuisier.
je parlais de la nature, mais la nature, c'est aussi le bois pour vous. Et le bois est une composante de votre. Je vois vous souriez, de votre parcours, de votre vie quotidienne. Il n'y a aucun de vos restaurants qui n'a pas de bois. Hein.
Ou quasiment. Parce que Ducasse, ça veut dire du chêne, celui qui habite au pied du chêne. Donc, vous comprenez, il y a du chêne un peu partout. Puis j'ai une passion pour le chêne. Donc j'ai appris à l'abattre. Mon grand-père, j'ai appris à le scier, à le faire sécher. J'ai appris à faire des planches. Donc j'ai appris tout ça. Et puis finalement, j'ai décidé de faire la cuisine. Mais j'ai une notion très précise du travail de la main, l'intelligence de la main et du travail de l'artisan. Donc je suis pas très éloigné de ça aujourd'hui.
Oui, c'est les mêmes métiers, votre grand-père, oui, quand vous dites artisan, il y a beaucoup de chefs aujourd'hui, moi je l'ai découvert en écrivant mon livre de portrait, qui se disent, Guy Savoy par exemple, il dit, moi je suis un artisan aubergiste, c'est-à-dire j'aime recevoir les gens et je suis artisan parce que je travaille avec ma main, je produis, je façonne quelque chose, je façonne un produit.
Mais on transforme les produits
Ouais.
dont nous sommes. Il faut bien se préserver de dire que nous sommes des artistes, puisque sans la générosité et la nature, nous ne pourrions pas exercer notre métier d'artisan. Pour être clair, il y a deux génies par siècle, il n'y en a pas dans la cuisine. En tout cas, je ne les ai pas croisés.
Comment votre grand-mère nourrissait-elle la famille? Vous me dites, bon, évidemment, on allait dans le jardin le matin, mais il fallait quand même avoir les idées, il fallait trouver les plats, il y a une
Ah non,
tradition familiale.
il y avait rien à, y avait rien à trouver. C'était poulet, lapin.
Vous mangez pas tous les jours des petits
Dindon,
pois, quand
canard,
même.
poisson une fois par semaine parce que c'était le vendredi. Et sinon, c'était du végétal,
Mais
beaucoup
elle
de
inventait
végétal.
ses plats, elle.
Vous savez, le répertoire, il se limitait
Ouais.
à 30 ou 40 ou 50 plats. Hein. Mais 30, 40 ou 50 plats, c'est déjà beaucoup, puisque c'était l'interprète d'une nature généreuse, diverse et variée avec la saisonnalité.
Alors la nature, vous l'avez portée en vous tout le temps, et à preuve, c'est que dans les premières réussites qui vous ont marqué, je pense au Louis XV à Monaco, quand vous avez été appelé par le prince de Monaco, prince Rainier, vous lui avez dit, dans mon menu, je veux un menu tout végétal. Et alors à l'époque, c'était en 87, hein, c'est ça ?
Les Jardins de Provence.
Hein, 87, je me trompe, mai 87, oui.
27 mai 1987.
Voilà, et vous lui avez dit, mais à l'époque, on vous a pris un peu pour un fou ou pas ? Ou déjà, c'était dans l'air du temps ?
Alors, au bord de la Méditerranée, la nature est généreuse de fruits et de légumes aux saveurs, aux couleurs, aux odeurs, à nul autre pareil. C'est comme le poisson de roche de Méditerranée. Donc finalement, je fais avec ce que j'ai et j'imagine que cette volonté d'être différent au point de créer un menu végétal par intérêt, mais aussi parce que les légumes, je les trouvais avec un goût si particulier, si délicieux que de faire un menu de A jusqu'à Z, c'était déjà une performance. On en vendait peu, on en vendait deux par jour. Et aujourd'hui, c'est 35%, donc ça a progressé. Il ne fallait pas lâcher, ne rien lâcher. Et finalement, ça s'impose jusqu'en 2014, opérer un tournant dans la haute gastronomie pour imaginer la naturalité. La naturalité, finalement, c'est la mise en avant des légumes et des céréales au point que ce sont des stars. Et la protéine animale, elle vient de la mer. Elle est de poissons de pêche durable pour l'essentiel, dont on connaît parfaitement la période de reproduction. On était très précautionneux de ça. Et on démontre qu'on est capable de faire de la cuisine avec le peu, voilà, de la haute gastronomie. Ce qui lui donne la légitimité que finalement, aujourd'hui, à New York, il y a un garçon immensément talentueux qui s'appelle Daniel Hum, qui a le restaurant 11 Madison Park, qui a fait un restaurant vegan où j'étais il y a quelques mois. Voilà, donc on peut aller affiner le trait encore plus loin jusqu'à faire du vegan et trouver du plaisir pour faire une harmonie de mets et de vins qui sont, au niveau de sapidité, l'équivalent d'un menu de tradition.
Voilà. Ouais.
J'ai pas dit que j'étais végétarien, j'ai dit qu'on pouvait amener au plus haut niveau d'excellence une nourriture précautionneuse de la santé des individus qui la consomment et aussi précautionneuse de la planète, puisque on sait que si on mange des céréales et des légumes, ça sera mieux pour la planète.
Oui, en France, on a une femme qui a été étoilée, la première chef étoilée au monde vegan, Claire Vallée, dans le sud. Pas de problème chez vous, d'ailleurs, à Arès.
Oui, qui malheureusement, au bout d'un an, était obligée de fermer.
Oui, parce que...
Qui s'est expatriée et qui est au bout du monde aujourd'hui. Je crois qu'elle vient d'atterrir en Corée, si mes informations sont bonnes. Donc, elle n'est plus dans le sud-ouest, malheureusement. Ça
oui, je sais, elle a fermé en février.
On ne peut pas
février.
S'imposer.
Oui, oui.
Il faut pas avoir raison trop tôt non plus.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous permettez de lire quelques lignes du chapitre que je vous ai consacré ? Parce que vous venez de parler de 2014, et c'est justement le tout début de mon chapitre. En 2014, est déclaré officiellement mort le premier glacier à cause du réchauffement climatique en Islande, après 700 ans d'existence. La Terre souffre. Et cette année-là, Alain Ducasse jette un pavé dans l'assiette en lançant son concept de naturalité, que vous venez de citer, Alain. Faire de la haute gastronomie sans viande. Et vous dites, 1 milliard de surnourris, autant de sous-nourris. Et en raisonnement simple, si les premiers avalaient moins de protéines animales, ils se porteraient mieux, ce serait bon pour la planète, et les seconds pourraient manger à leur faim. Et vous avez donc ouvert le Alain... Enfin, vous n'avez pas ouvert, mais vous avez transformé le Alain Ducasse au Plaza Athénée, qui devient le premier restaurant de palace au monde à ne servir que des fruits, des céréales, des légumes, des céréales et des fruits bio autant que possible, et des poissons de pêche de ligne durable. Est-ce que vous avez hésité longtemps, Alain Ducasse, avant de lancer ce concept de naturalité ? Parce qu'il fallait quand même oser... Dans un palace.
Oui, mais c'était l'idée de toujours de faire différent et de provoquer et de voir si ça va marcher. Jusqu'au point, là récemment, il y a exactement 12 mois, nous avons un restaurant qui s'appelle Sapide. Sapide, l'origine et la racine du mot sapidus en latin, qui veut dire les choses qui ont du goût. Ce restaurant, aujourd'hui, il est à 95% végétarien. Ce n'est pas un restaurant, c'est le réfectoire d'Alain Ducasse. Le ticket moyen est à 35-40 €. On y a 95% végétal. C'est une cuisine du peu, c'est une cuisine délicieuse. Et ça y est, au bout d'un an, j'ai hésité à imaginer que ça allait réussir. Ça y est, on est complet midi et soir maintenant. Ça s'impose pour démontrer que la gastronomie, ça commence aussi à un prix juste. Mais à ce prix-là, on ne peut pas manger de la viande. Donc on mange des légumes et des céréales. Donc on peut faire de la belle gastronomie accessible pour tous, même si la haute cuisine et la haute gastronomie sert en termes d'image à nourrir, à irriguer la cuisine de tous les jours, ce que j'appelle la restauration au quotidien. On a aussi besoin de la haute gastronomie. Mais la démonstration, c'est qu'on peut se nourrir bien d'une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger.
Agréable à manger et agréable à payer aussi. Hein. C'est vrai qu'on est dans des tarifs qui sont intéressants.
C'est tout ça
quoi. Démonstratif. Oui, bien sûr.
Dire, on peut le faire.
Alors, ça, c'était le premier aspect de votre vie, si j'ose dire, ce qui est un peu votre ADN, on le disait, la nature, le bois, etc. Mais alors, vous insistez aussi beaucoup dans votre livre sur la transmission. Et ça, c'est un deuxième aspect que moi que j'aimerais que vous nous expliquiez, les écoles que vous avez ouvertes, les jeunes chefs que vous lancez. Avant de parler de ça, peut-être, qui à vous vous a transmis cette passion du métier, ce goût du métier?
Bon, j'ai travaillé chez 4 maîtres. J'ai fait un apprentissage de 7 ans après l'école hôtelière à Bordeaux, que j'ai quitté avant de passer mon examen.
Oui, au bout d'un an, vous avez, on peut le dire, au bout d'un an, il a claqué la porte parce que ça allait passer vite.
Voilà. Je crois que je le raconte dans le livre.
Oui, vous le racontez. Oui.
Il faut apprendre vite pour continuer à apprendre. Et comme on apprend vite, on transmet vite. C'est pour ça qu'on a créé une maison d'édition. Ce livre est le 38e livre en qualité d'auteur. Mais une maison d'édition, c'est pour transmettre les recettes, mais pas que les recettes, c'est pour transmettre aussi un esprit culinaire. Et d'éditeur, je suis devenu enseignant. Nous enseignons aujourd'hui dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Nous avons environ 1000 élèves qui apprennent la cuisine française aujourd'hui dans le monde. C'est un rôle porté d'influence économique pour la France. Oui. Important, savoir de là, de former des jeunes, ça va de partager une certaine idée de la culture française, de l'excellence de la table. Et ces jeunes, quand ils vont rentrer dans leur pays, ils importeront certainement dans leur pays des vins français, des arts de la table française, de la porcelaine, de l'argenterie,
oui, vous avez
un peu de culture française. Donc tout ça, c'est un rôle d'influence. Il faut
beaucoup d'étrangers à Meudon dans votre centre culinaire. Oui, mais c'est ça.
Hein. Donc, on beaucoup a de 85% d'étrangers. On fait des reconversions. Nous avons 74 passeports différents. Voilà, et nous avons ouvert en plein Covid. Par chance, notre président avait eu la bonne idée de préserver les écoles ouvertes. Donc, comme nous étions une école, les étrangers sont venus en plein Covid et on a ouvert avec beaucoup de succès. Ouais.
Vous voyez comme il est modeste. Je lui demande qui a été ses maîtres et en fait, tout de suite, il passe sur ses élèves. Vos maîtres, c'est Chapelle, Le Nôtre, Verger et Guérard.
Le Nôtre et Michel Guérard,
oui, bien sûr. Oui. Avec un parcours donc d'abord chez Guérard, différent. Le Nôtre, ensuite Verger, Chapelle.
Différents, des oui. enseignements différents. Et après, il faut compiler tout ça pour faire sa cuisine, pour raconter oui. son histoire, pour la codifier. C'est pour ça que nous avons fait des encyclopédies pour partager avec le plus grand nombre. Mais c'est faire des encyclopédies, c'est aussi pour s'obliger à continuer à créer, parce qu'une fois qu'on a vendu des encyclopédies, que cette influence culinaire, elle a été acquise. Par mes confrères et par les chefs un peu partout, il faut bien continuer à créer.
Oui, il faut innover.
Sans cesse,
oui.
continuer à essayer de proposer des choses différentes. Est-ce qu'on est bon tous les jours? Nous ne sommes pas bons tous les jours. Nous essayons de nous améliorer tous les jours. Mais bon, tous les jours, bien que nous enseignions, bien que nous éditions, nous ne sommes pas bons tous les jours parce que il faut être très indulgent dans un restaurant parce que notre métier est difficile. Donc il y a beaucoup d'aléas. Ouais. D'abord la qualité de ce que nous donne la nature et puis après la qualité des humains. C'est un métier exigeant où les horaires sont encore trop souvent trop. Il y en a beaucoup trop dans la journée, mais c'est ainsi, ça va s'améliorer. Mais quand vous allez au restaurant, essayez d'être indulgent, de savoir pourquoi ce n'est pas si aisé de trouver du bonheur au restaurant. Et quand vous avez la chance de tomber sur le bon restaurant, je pense qu'il ne faut pas hésiter de le dire au chef et de le dire au directeur. C'est un métier de relation, de partage, de générosité. Il faut en remercier celui qui en est l'auteur.
Oui, c'est un spectacle 2 fois par jour qu'il faut mettre en place et c'est un peu compliqué. Vous écrivez, les cuisiniers sont des héritiers, des maîtres, des élèves. Donc ils ne cessent jamais d'apprendre. Et vous ne cessez jamais d'apprendre d'ailleurs. Hein. Vous êtes un défricheur, un chercheur permanent.
Et puis, tous les jours, j'apprends des gens que je rencontre. Demain, j'espère que je serai riche d'une rencontre que je n'imaginais pas avoir aujourd'hui. Donc je serai plus riche demain qu'aujourd'hui.
Alors, troisième temps fort de votre personnalité, Alain Ducasse. Après votre grand-mère, la Chalosse, après cette notion de transmission, c'est la Méditerranée. Vous l'avez évoquée tout à l'heure, et on peut dire qu'elle vous a quelque part un peu construit, cette Méditerranée. Pourquoi ?
Ma terre d'adoption.
Oui.
J'ai été adopté par Méditerranée. De cette terre aride, des poissons de fond rocheux, au goût à nul autre pareil, aux légumes, fruits d'une terre aride, hein, puisque la Méditerranée, il y a les oliviers, les cyprès, mais pour c'est certainement pour ça que les légumes et les fruits ont des parfums, des odeurs que je ne sais pas trouver ailleurs. Donc c'est mon premier, mon deuxième terroir. En tout cas, c'est mon terroir d'adoption qui régit aujourd'hui encore plein de goûts originels en complément de ma terre de Chalosse.
Oui, Roger Verger, chantre des légumes méditerranéens, qui a été votre maître. Alain Chapelle, un petit peu plus au nord, mais enfin, on n'est pas bien loin non plus. Les légumes. Vos premières étoiles aussi, donc votre carrière commence à éclore en Méditerranée, enfin autour de la Méditerranée.
Oui, Roger Verger m'a appris le professionnalisme et la rigueur. Alain Chapelle m'a appris la sélection rigoureuse d'un produit d'excellence, sa juste préparation, son juste assaisonnement, sa juste cuisson, la juste réduction de la sauce qui va avec, la parfaite harmonie avec le vin, la bonne température, etc. Débuter un repas, le terminer, le savoir le clore, tout ça s'apprend au bout d'un long apprentissage. Et ensuite, il faut imposer sa patte, raconter son histoire ou raconter ses histoires, puisque j'aime à dire que chacun de mes restaurants doit raconter une histoire différente, parce que le chef en charge doit imprimer sa marque dans un périmètre défini ensemble. Ensuite, un restaurant prend sa vie, prend une forme d'autonomie, et chacun doit raconter une belle histoire. C'est ce qui fait la différence de mes restaurants, qui sont jamais les mêmes, en fait. Mmh. Et ils sont pas bons tous les jours, mais en tout cas, c'est ce que...
Ils sont pas mal quand même, hein. C'est intéressant ce que vous dites là sur, quand vous dites Alain Chapelle m'a appris le geste, la bonne cuisson, etc., la juste température, parce que ça prouve que, enfin ça nous rappelle en tout cas, parce qu'on l'oublie parfois un peu, hein, que la cuisine c'est forcément aussi un peu de technique, d'apprentissage, enfin n'est pas cuisinier qui veut, enfin bon c'est, cuisinier.
C'est rigueur, discipline, exigence. Ensuite, si vous travaillez plus vite et mieux, vous avez un peu de chance d'y arriver. Mais si vous ne compilez pas ces 6 ingrédients, vous avez peu de chances dans un monde aussi compétitif d'y arriver aujourd'hui.
Parlez-moi,
je répète ça à mes jeunes.
Ouais. Parlez-moi de la Bastide de Moustier. C'est toujours dans le chapitre Méditerranée. C'est votre refuge, c'est votre...
C'est une auberge. Je suis aubergiste depuis le...
Vous l'avez racheté, hein, cet établissement, ouais.
Je l'ai restauré. Je suis aubergiste depuis le mois d'avril 1995. Et j'ai eu un attachement particulier parce que c'est... une auberge où le client qui arrive doit sentir immédiatement comme chez lui. On mange les légumes du jardin pour l'essentiel. On se nourrit des produits que l'on trouve pour l'essentiel à 100 km à la ronde. Voilà, c'est l'idée que le cuisinier, il est aubergiste. Il va donner le gîte et le couvert avec beaucoup de générosité. Ma directrice était apprentie il y a 25 ans. Voilà, c'est un modèle que français... de l'art de recevoir dans une forme de simplicité. J'aime beaucoup être aubergiste, j'aime beaucoup être dans la haute gastronomie, j'aime beaucoup faire les métiers que je fais. Je vais en démarrer d'autres, hein. Je suis aussi devenu manuel.
Oui, on va en parler juste après. Et quand vous dites ma directrice était apprentie. Non, mais ça prouve que, j'allais dire, vous avez presque une...
L'ascenseur social.
Oui, mais vous avez presque une tribu, pardonnez-moi le terme, je ne sais pas si vous allez l'adouber ce terme, mais vous aimez, ça vous plaît, tribu, parce que c'est un peu ça, il a des jeunes qu'il prend apprentis, et ensuite il les amène sous-chef, etc. Il les place ici, il les renvoie ailleurs. Je pense par exemple à Romain Méder, qui était au Qatar, que vous avez appelé quand vous avez ouvert. Quand vous avez créé en 2014,
j'appelle Romain qui était mon chef à Doha au musée des arts islamiques,
ouais, pour la naturalité.
Oui, pour lui dire viens me voir, on va faire un restaurant où on va faire que des légumes, des céréales et quelques boissons. Il m'a dit je ne sais pas faire. Je lui dis c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, et puis j'avais une idée très précise de ce que je voulais et on a travaillé et on a édité La Naturalité. Après être allé regarder à nouveau. Et se faire aider par un cuisinier de cuisine shojin d'un tram traditionnel de Kyoto.
Vous lui consacrez plusieurs pages.
Oui, parce que. C'est une cuisine végétalienne où je suis allé, je l'ai intégré dans mes équipes. On n'a pas appris des recettes, mais on a appris une sensibilité culinaire. Voilà, on l'a intégré dans nos expertises et dans nos connaissances pour éditer une cuisine originale, puisqu'on a édité 2 encyclopédies sur la naturalité. Voilà, c'est un moment, c'est un virage pour la gastronomie de démontrer que cela est possible de faire une nourriture différente.
La Bastide, un dernier mot sur la Bastide. Quand je disais c'est votre refuge, c'est là où vous aimez aller quand vous êtes seul, vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Hein. C'est plus que la Chalosse d'ailleurs ou pas c'est...
Oui, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de... je suis un voyageur zappeur. Voilà, je suis bien là où je suis. Je suis un voyageur du monde. Voilà, là où je suis, j'apprécie. Là où je serai demain, j'apprécie aussi. C'est une décision, en fait. Voilà. Je suis bien là où je me trouve.
La vie et ses aléas vous ont également construit. Et permettez-moi de reprendre encore un tout petit passage de mon portrait. Le 9 août 1984, tout bascule. Il s'envole pour Courchevel avec 4 autres personnes, dont le directeur de l'hôtel Biblos de Saint-Tropez, Claude Marais. Ils vont préparer l'ouverture d'un établissement dans la station de ski. Les conditions météo ne sont pas bonnes. L'avion de tourisme, un Piper Aztec, se perd dans le brouillard et s'écrase près de Chambéry, seul survivant. Alain Ducasse passe 1 an à l'hôpital, subit 13 opérations, reste 3 ans en fauteuil roulant, marche avec des béquilles, etc. Ça a changé votre vision du monde et votre vision de la cuisine et votre vision de la vie, Alain,
oui.
Très honnêtement. Parce que vous êtes assez discret sur ce passage de votre vie qui a quand même marqué.
En fait, les seuls vrais problèmes dans la vie, c'est lorsque vous avez un problème, que vous êtes physiquement ou intellectuellement diminué au point d'être désocialisé. Moi, j'ai vécu désocialisé. Pas intellectuellement, mais physiquement. Dans la société, vous oubliez, vous êtes sur le trottoir. Et petit à petit, je me suis resocialisé. J'ai appris à remarcher, à revoir, etc. Donc j'ai vécu cette période-là. Ça me fait dire que quand on a un problème, s'il n'est pas physique ou intellectuel, si vous restez normalement constitué, vous allez trouver une solution. Et j'aime à dire que quand j'ai un problème, j'essaie d'avoir deux solutions. Parce que les seuls problèmes, ils sont physiques ou intellectuels. Quand vous êtes désocialisé. Pour tout le reste, il y a des solutions. C'est une décision.
Ouais. Mais là, vous avez appris à construire votre cuisine mentalement. C'est-à-dire que
je ne savais pas faire autre chose. Donc, j'ai bien continué à écrire des recettes, à faire des cartes. J'ai ouvert le Biblos depuis mon lit d'hôpital. Et finalement, j'avais des collaborateurs.
Avec les souvenirs de la Chalosse, les odeurs que vous aviez en tête et tout ça, hein, c'est ça, oui.
Oui, donc on peut l'écrire, on peut transmettre. Et c'est certainement ce qui me permet de faire aujourd'hui ce que je fais ou d'avoir osé faire des restaurants sans y être.
Autre axe de votre personnalité, Alain Ducasse, après la nature, la Méditerranée, la transmission, ce qui est apparu dans ce livre, et puis parce que je vous connais un peu, c'est que vous êtes toujours en mouvement. Et vous venez de le dire, je suis un voyageur, mais ça veut dire quoi en mouvement? C'est-à-dire que vous cherchez toujours, vous êtes en quête de quoi?
Oui, je trouve. Hein. Je me nourris des rencontres, je me nourris de l'agrandir ma palette gustative, je me nourris de ce que je n'ai pas encore goûté, de ce que je ne sais pas, je suis en quête permanente de ce que je ne connais pas, et j'aime aussi attaquer des chantiers de métiers que je ne connais pas mais qui sont toujours dans ma sphère de nourriture. Voilà, donc notre dernière aventure allait autour des biscuits. Un matin, je me suis levé, j'ai dit je vais faire des biscuits. Bien sûr, tout le monde rit en disant il va faire des biscuits.
Bon, mais donc ne riez pas trop, parce que quand il s'est lancé dans le chocolat, son chocolat est l'un des meilleurs de Paris et
donc
de France.
On fait des biscuits, on fait des ouais. Très bons biscuits. Alors la volonté de faire, c'est de faire des biscuits qui ne sont pas comparables, pour pas qu'ils soient comparés, en tort faut-il qu'ils soient différents. Donc ouais. Nous avons décidé de faire des biscuits différents. Est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux qui existent sur le marché? Je ne sais pas, ils sont différents. Est-ce qu'on fait des chocolats meilleurs que ceux qui existent? Je ne sais pas, ils sont différents. Voilà. On aime bien faire quelque chose de différent. Après, il faut que le public arrive et accepte cette différence. Donc, c'est plus long, c'est pas aisé, c'est un long parcours. Voilà, il faut.
Avec le chocolat, c'est réussi parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans.
Oui, bon,
le chocolat, la première manufacture.
Exactement. Ouais. On a ouvert en 2014. Voilà, c'est un long parcours de sélectionner ses fèves, de remettre en route des machines pour faire notre chocolat. Et faire tout le process et toute la maîtrise du sac de 70 kilos de chocolat qui vient du bout du monde jusqu'au bonbon de chocolat que nous vendons dans nos boutiques. Voilà, c'est une décision, c'est un long parcours.
C'est de l'artisanat là encore.
Oui,
hein.
Bien sûr, mais c'est de l'artisanat au débit. Aujourd'hui,
ouais.
je suis un artisan, nous faisons des ateliers, nous ne faisons pas une usine, nous faisons des ateliers différents. Chaque fois, on fait des petites quantités. Quand on fait du praliné, jamais on va faire plus de 25 kilos de praliné parce que si on faisait le double, on n'aurait pas la même qualité, la même granulométrie. Donc nous sommes obsédés par l'idée des petites séries. Alors on multiplie les petites séries. Voilà. Et on aime avoir l'attention portée à chaque détail. Et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs précieux qui sont...
Vous allez chercher les meilleurs quand même hein, pour la glace. Vous êtes allé chercher...
D'abord, on va essayer de les prendre jeunes pour ne pas avoir les déformer, pour les former directement. On aime bien les former. Voilà. Et il y a ceux qui s'en vont, il y a ceux qui reviennent. On a très peu d'intégration extérieure. On aime bien fonctionner par une promotion interne assez rapide.
Chocolat, café, glace, biscuits, j'en ai oublié dans les manufactures où il y en a en perspective.
Y a d'autres qui arrivent.
Alors quoi, par exemple, on peut avoir un scoop ou pas, non?
Oui, je vais devenir charcutier de la mer.
Charcutier de
la
mer.
Des charcuteries avec des produits de la mer.
Ouais.
Et des jardins marins et des algues, certainement. Donc
des algues. Oui, les algues, c'est très novateur.
Que des charcuteries de la mer. Des algues et des légumes marins. Voilà. Ça, c'est un projet
justement.
De 12 à 18 mois.
Voilà. Alain Ducasse, puisque vous parlez des algues, ça, c'est des produits qui sont dans l'alimentation en devenir, enfin, qui existent déjà, bien sûr, hein, mais dont on sait que c'est des perspectives de recherche intéressantes pour la nourriture de demain. Comment vous la voyez, vous, cette alimentation de demain? 10 milliards d'êtres humains des matières premières plus rares, plus chères, on le voit aujourd'hui, hein, le réchauffement climatique. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet pour nourrir le monde ou pas?
Oui, je suis inquiet. C'est pour ça qu'on va consommer certainement des poissons qui ne sont pas d'encore, ou des poissons qui sont rejetés dans la mer. Il y a plein de poissons qui... La murène, par exemple, quand un pêcheur de Méditerranée pêche une murène, c'est une galère pour lui. Il la sort de... Enfin, il enlève de son filet ou il enlève de son hameçon, il la rejette. Donc, alors, nous, on a commencé à peler des murènes, à les traiter.
Parce que c'est pas bon, Si, c'est bon. Alors, c'est pourquoi bon, il la rejette?
Mais aujourd'hui, personne ne sait en faire... Personne ne consomme de la murène. Ouais. On ne consomme que 10 à 15% des poissons consommables. Donc il va bien falloir les chercher, il va falloir les travailler différemment pour essayer de les faire découvrir au palais de l'humain des humains qui sont là.
Et respecter leur saison, parce que les poissons aussi ont des saisons. Hein.
Donc c'est un travail. Hein.
On ne peut pas manger du thon rouge toute l'année, de la Saint-Jacques.
On a commencé, ouais. On va s'inspirer des Japonais pour savoir comment on peut les maturer. Comment l'évolution gustative va opérer. Il n'y a pas de législation aujourd'hui sur le poisson cru maturé. Les Japonais maîtrisent bien. On peut en vendre dans le restaurant, on peut faire ça dans le restaurant, mais si je veux en vendre depuis une charcuterie, à mes clients de demain, je dois passer par l'opération label, agrément, ouais. Sanitaire, etc. Donc bon, c'est un parcours qui commence.
Mais alors ce parcours, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que ça amène le côté politique des choses. Est-ce que la nourriture est devenue politique aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un rôle politique, vous?
Oh, pas du tout. Il ne faut pas compter sur les politiques. Ce ne sont que des promesses pour l'essentiel. Donc on fait, je suis plutôt dans le monde entreprise.
Oui, mais quand vous dites qu'il faut des règles, politiques. Il faut des règles. C'est les politiques qui vont établir les règles, à un moment ou à un autre.
Oui, c'est l'administration, donc on va travailler avec. Je vais travailler confortablement avec l'administration.
Juste un dernier mot sur la nourriture de demain. Vous dites, par exemple, à Sapide, on mange 17% de viande,
oui,
de poisson.
Ouais. 5%.
C'est quoi la nourriture de demain? C'est passer de 80% de viande à 20% de végétal, à l'inverse?
C'est inversé.
Ouais.
80-20,
mais est-ce qu'on y est prêt? Est-ce que dans nos esprits, surtout en France, on est quand même des viandards, beaucoup?
Mais ça n'interdit pas de manger une pièce de bœuf extraordinaire, moins souvent, moins de quantité, pour une meilleure qualité, afin que l'éleveur puisse vivre correctement du prix de sa viande élevée, mais seulement il aura besoin de moins produire pour une meilleure qualité. Voilà, il faut changer la manière de penser. Il faut que dans les commissions de menus des parents d'élèves en France, le fournisseur de prestations pour les enfants ne soit pas obligé d'avoir deux ou trois fois de la protéine animale. Il faut expliquer que ce n'est pas nécessaire. Par contre, il faut que la protéine qui sera servie aux enfants soit d'excellente qualité, si possible, si elle n'a pas suivi des transformations ou si elle n'a pas été conservée par des...
Les produits chimiques, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc, mais ça ne coûte pas cher, la protéine animale et le légume ne coûte pas cher, ça coûte moins cher que la protéine animale.
Oui, la protéine végétale, parce que pour avoir un steak dans son assiette, il faut que, je ne sais plus combien, un bœuf, c'est 15 millilitres d'eau.
Aujourd'hui, on a fait des burgers qui s'appellent Burgal, hein, c'est une marque déposée, qui est un burger végétal, comme son nom l'indique, qui est un burger végétal, qui n'est même pas végétal, il est vegan. Voilà, et la production de cette galette végétale, c'est moins d'un demi-euro. Ça a le même apport nutritionnel qu'un burger de viande. Donc, alors, c'est au niveau expérimental. Donc, j'aurai une marque qui s'appelle Burgal. J'ai bon espoir de la descendre dans la rue et de démarrer un corner qui va s'appeler Burgal où on viendra manger un burger végétal. Et il y aura aussi moins de gluten puisque la galette de pain, il y aura 50% de farine de pommes de terre, de fécule de pommes de terre. Donc on va descendre aussi le taux de gluten puisqu'on sait que aujourd'hui les nouveaux humains, ils ont pour la plupart...
C'est pas les nouveaux humains, c'est les nouvelles farines surtout qui ont amené le gluten beaucoup, hein, les problèmes de gluten.
Mais les nouveaux humains, ils acceptent moins les mauvais gluten.
Vous le dites dans votre bouquin, donc je vous pose la question quand même, Alain Ducasse, quel est le lien entre le fast de votre restaurant de Versailles, où on est servi en livret, ça coûte très très cher, et puis votre réfectoire parisien?
Si les rois étaient là... C'est certainement ce que les rois qu'on a décapités mangeraient aujourd'hui. Mais enraciné dans l'histoire, 3 siècles plus tard, on a le droit de servir à Versailles une nourriture en harmonie avec l'excellence de ce palais extraordinaire. Ouais. Donc on raconte une histoire extraordinaire où l'art de vivre à la française est extraordinaire. Mais ça ne m'interdit pas de faire un dîner royal à Versailles et d'être un client pour mon restaurant Sapide, rue de Paradis à Paris.
Voilà, ouais, à 45 euros.
Le consommateur
ouais.
d'aujourd'hui.
C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même.
C'est le même client. Et aujourd'hui, pour l'anniversaire de mariage extraordinaire, on peut avoir envie d'aller dîner à Versailles. Et je suis ce client. Je suis un client infidèle, zappeur, curieux, informé, surnourri, surinformé. Mais j'ai envie de me faire plaisir différemment, mais je ne veux pas qu'on me raconte des histoires. Je veux qu'on me raconte une histoire qui délivre la promesse que je m'engage. À Versailles, on vit une histoire extraordinaire.
Le lieu est extraordinaire, c'est vrai que...
C'est comme ça.
Face au Grand Canal.
Et donc, mon réfectoire, c'est un réfectoire. Comme son nom l'indique, ouais. c'est un réfectoire végétalien pour 95%, point barre. Enfin, c'est deux histoires différentes. Je raconte des histoires différentes.
Bien sûr. Et puis, de toute façon, la gastronomie reste toujours ce qui tirera toute l'alimentation vers le haut.
C'est comme la haute couture ouais. et la mode, la haute gastronomie et la restauration. C'est pareil. Il faut... J'ai toujours... La haute gastronomie, c'est comme l'iceberg. C'est ce qui dépasse de l'eau. Mais le business, il est sous l'eau. Hein. Mais on a besoin d'astiquer la marque gastronomie parce qu'il brille pour que cela serve l'ensemble d'une industrie qui s'appelle la restauration. C'est comme la haute couture et la mode.
Vous m'avez avoué un jour, Alain Ducasse, que vous auriez aimé être architecte si vous n'étiez pas devenu cuisinier. Mais vous auriez construit quoi, du coup ? Des cités radieuses comme le Corbusier ou des palais comme Versailles ?
Des lieux
comme le
dans lesquels j'aime opérer. Je suis dans le musée des arts islamiques construit par Pei à Doha. Je suis aussi dans le musée d'art contemporain à Doha construit par Jean Nouvel. Je suis dans un building de Zaha Hadid à Macao. Je suis dans un building de Peter Marino à Tokyo. Voilà, j'aime bien.
Et vous serez bientôt.
J'aime bien être dans des lieux.
Vous serez bientôt à Clichy.
Certainement, j'espère.
Peut-être. Ouais, maison et c'est la maison du peuple.
On a encore quelques petits soucis juridiques. J'ai bon espoir qu'on y
mais
arrive.
Mais non, mais c'est juste pour dire que vous me parlez de Doha, etc. Et puis ouais. Clichy, la maison du peuple. C'est voilà, c'est même.
Dessiné par Prouvé.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce bâtiment d'ailleurs, dans cette histoire?
Je suis tombé amoureux du bâtiment parce que je connaissais l'histoire du bâtiment. Je ne suis pas sûr d'y arriver à tout ça. Je vais essayer d'y parvenir. Voilà. Mais on va aller jusqu'au bout. Mais le bâtiment, c'est le premier bâtiment industriel préfabriqué. Nous sommes en 1935. C'est ingénieur, architecte, designer, Prouvé, Lotz et Bolensky qui décident de faire ce bâtiment qui est étudié dans toutes les écoles d'architecture du monde. Voilà, donc si je suis un architecte raté. Donc si j'habite dans un monument historique industriel des années 30, puis en plus m'installer dans la maison du peuple construite par le Parti ouais. communiste, vous comprenez que ça m'amuse fort.
Bon, vous n'êtes pas un architecte si raté que ça, parce que vous avez construit quand même beaucoup de choses au niveau culinaire et gastronomique. Vous adorez chiner.
Je
sais que votre addiction, on peut parler de ça, pour le chinage. J'ai vu Thierry Marx avant-hier, il m'a dit, je le croise souvent, il vous embrasse d'ailleurs, et je le croise souvent au Puce à Saint-Ouen. C'est quoi cette addiction pour le chinage? C'est pour habiller vos restaurants ou c'est un plaisir personnel?
C'est pour faire mes restaurants.
Oui.
À Versailles, il y a 30 à 40% qui vous savez, à Versailles, vous buvez dans des verres qui ne seront pas réédités, qui ont 100 ans. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut prendre conscience de l'excellence et l'unicité de ce que l'on vous propose. Donc, pour aller à Versailles, il faut être perméable, il faut être curieux, il faut accepter la différence de ce qu'on va vous faire goûter. Donc, et donc, pour ça, il faut aller chercher des objets partout. Dans mes restaurants, il y a des objets anciens, voilà, mais dont on connaît l'origine. J'étais à Kyoto, dans mon restaurant Benoît, qui a ouvert pendant le confinement.
Voilà, donc vous connaissez tous les objets de tous vos restaurants. Hein. D'ailleurs, même des fois, vous le racontez, je crois, dans le bouquin, vous arrivez à un endroit, la statue, elle n'est pas bien placée, vaut mieux qu'elle soit là, le fauteuil, il est là. C'est...
Oui, ça ne se soigne pas. Hein.
Bon, est-ce qu'on a fait le tour, cher Alain Ducasse, de tout ce que vous pourriez dire? Enfin non, il y en aura encore des choses, mais... Mais on a dit l'essentiel quand même de votre parcours, de votre cuisine.
Par-dessus tout, j'aime continuer à apprendre et surtout continuer à donner ce que j'ai appris parce que je pense que de former, de partager, moi je ne suis pas nostalgique du temps passé, je suis certain que les talents d'aujourd'hui sont supérieurs à ceux d'hier et que les trentenaires d'aujourd'hui si on les nourrit bien, ils sont l'avenir de notre société. Voilà.
C'est eux que vous accompagnez. Ouais. Les jeunes chefs, vous avez plein de jeunes chefs dans vos cuisines, mm-hmm. que vous portez, que vous accompagnez.
Et de jeunes chefs.
Chefs, eux aussi.
J'ai quatre fameux chefs ouais. à Paris.
Marie-Victorine Manois, par exemple, où j'ai été au Lyonnais, qui est une femme formidable. Hein.
Mm-hmm. On a moins d'ennuis. Je dis toujours, pour ennuyer mes chefs hommes, quand je vais les voir, ils ont toujours un souci à me partager. Et quand je vais voir mes femmes chefs, elles ont toujours un plat à me faire goûter.
Cher Alain Ducasse, j'ai été très heureux en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous et avec le public briviste, et puis de brosser votre portrait dans mon livre L'arrière-cuisine aux éditions Herscher, parmi les 25 chefs que j'ai choisis. Je vais juste en évoquer deux ou trois pour donner un peu d'idée. Le Libanais Alain Jeham, qui dormait à la Belle Étoile. Vous connaissez Alain Jeham ? Qui dormait à la Belle Étoile à son arrivée à Paris. Il était sans papier et il possède aujourd'hui 5 restaurants, dont 2 qui ont une étoile. Vous voyez le parcours. Anne-Sophie Pic, qui s'est imposée dans un milieu d'hommes et dans le restaurant familial où elle n'était pas forcément la bienvenue. Hein. Là aussi, ça a été dur pour elle. Et elle qui n'avait jamais appris la cuisine. Bon, mon ami Thierry Marx, délinquant en devenir et qui s'en est sorti grâce à la cuisine, grâce au sport, etc.
Et Marot, hein. Et Marot, Cola Gréco.
Oui, j'ai pas mis Marot, Cola Gréco. Ça sera dans le volume 2 peut-être. Dans le volume 2 peut-être. Par contre, j'ai mis Nadia Samud parce que je sais que vous avez connu sa maman, Reine, puisqu'on parlait du gluten tout à l'heure.
Bien sûr.
Nadia Samud qui a failli mourir de la maladie cœliaque et qui a inventé une cuisine sans gluten qui l'a sauvée. Et elle est la première étoilée au monde pour ce genre de cuisine sans gluten. Bref, des hommes et des femmes qui portent des valeurs de travail, d'exigence et de partage, comme vous. Et au fond, Alain, c'est la passion des choses et le goût de bien faire qui doit porter chacun de nous. Hein, c'est ce qui vous anime.
Sans cesse.
Voilà. Et d'ailleurs, votre livre s'appelle « Une vie de goût et de passion ». Et Alain va être ravi de vous le dédicacer.
Merci.
Et nous avons bouclé nos 3 quarts d'heure, parce que je crois qu'il faut s'arrêter au bout de 3 quarts d'heure. Donc, le timing est fait. Merci beaucoup
Merci
pour votre attention.
Plus.